Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, chaire Sciences du logiciel.
Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette sixième année de cours sur la chaire de Sciences du logiciel. Et donc, merci de votre présence ou merci de votre écoute si vous nous suivez à distance. Et le thème du cours cette année sera les structures de contrôle, c'est-à-dire la question générale de comment décrire, comment contrôler l'enchaînement des opérations dans une machine. Alors par exemple, un métier à tisser de type jacquard, la réponse est connue, c'est à l'aide de cartes perforées, comme vous pouvez voir sur la droite. Chaque ligne de la carte décrit une ligne du tissage, les pleins et les trous correspondent à des fils différents. Et quand on a fini une ligne, on passe à la ligne suivante de la carte, donc on exécute les cartes en séquence. Et ce que vous voyez peut-être pas, ou bien, c'est que en général, ces cartes sont rebouclées, c'est-à-dire que la dernière carte, en fait, est reliée à la première, ce qui répète le motif à l'infini. Et j'aime à penser que c'est la terminologie de boucle en informatique provient de cette boucle physique des métiers jacquard. Donc voilà, nous avons une structure de contrôle qui est les cartes perforées arrangées en boucle. Maintenant, bien sûr, nous on va s'intéresser aux calculs dans les ordinateurs. Et si on regarde les architectures matérielles, le modèle prédominant depuis 1945, depuis que von Neumann et Turing l'ont décrit, c'est un modèle donc où les instructions sont en mémoire et la plupart sont exécutées en séquence, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel elles apparaissent en mémoire. Et certaines instructions, on appelle des branchements, permettent de sauter une adresse de code spécifique. Donc là en bas, vous voyez les cinq premières instructions qui s'exécutent en séquence, sont les instructions de calcul ou d'entrée-sortie, et la sixième qui rebranche sur la troisième, réalisant ainsi une boucle infinie. Et les premiers langages de programmation suivent le modèle de la machine. C'est un contrôle que l'on dit non structuré, avec des branchements, le célèbre go-to, dont on va beaucoup parler. Mais assez rapidement, dans l'histoire de l'informatique, les langages évoluent vers un contrôle structuré, exprimé à l'aide de mécanismes linguistiques, de construction du langage, appelé les structures de contrôle. Alors, on les connaît tous, plus ou moins, les conditionnels, si alors sinon, les boucles comptées, boucles for, les boucles générales, les boucles while, mais aussi des structures de plus haut niveau, comme les procédures, les fonctions, les méthodes, les coroutines, et puis tout ce qui tourne autour de la gestion d'exception, la gestion de continuation, la gestion des faits. Et après, d'autres langages cherchent aussi à rendre le contrôle beaucoup plus implicite. On les appelle les langages déclaratifs, et on en parlera un peu aussi, langage d'état-flow, fonctionnel, logique, par contrainte. Et donc, le but de ce cours, c'est essentiellement de faire un voyage dans l'espace et dans le temps des langages de programmation, vu sous l'angle du contrôle. Quelles constructions ces langages fournissent aux programmeurs pour exprimer et contrôler l'enchaînement des calculs? Quelle structuration du programme, du code source, est rendue possible, est encouragée par ces constructions, ces structures de contrôle? Donc j'aurais pu appeler le cours « Les paradigmes du contrôle ». Et donc nous aurons une approche qui est largement descriptive, beaucoup comparative entre les différents langages de programmation, mais parfois formelle, lorsque le sujet se prête à une formalisation rigoureuse. Donc nous sommes partis pour huit semaines, huit séances de cours. Donc je vous fais un plan rapide. Donc aujourd'hui nous allons parler de la naissance des structures de contrôle, du go-to à la programmation structurée. Donc comment en quelques années on est passé de l'assembleur puis au langage Fortran puis au langage Algol qui a beaucoup inspiré de langages contemporains. On va parler du mouvement pour la programmation structurée et la chasse au go-to considéré comme harmful, et un point un peu plus technique sur l'expressivité, justement, du contrôle structuré par rapport au contrôle non structuré. La semaine prochaine, on parlera d'autres structures de contrôle de plus haut niveau, en commençant par les subroutines, plus connues maintenant sous le nom de procédures et de fonctions, qui font à la fois structuration et réutilisation du code. On parlera de la gestion d'erreurs non locales, les exceptions, la solution moderne, le go-to non local, qui est la solution historique, qui a des propriétés étranges. et puis de contrôle un peu spécial, comme l'inversion du contrôle qu'on voit avec les itérateurs et les générateurs, et puis les coroutines et jusqu'aux threads, donc jusqu'à des entrelacements de calculs plus complexes. La semaine d'après, donc le 8 février, ce sera consacré à la programmation déclarative. Donc il y a une tentative en fait d'éviter de décrire dans le programme dans quel ordre faire les calculs et de décrire uniquement quel calcul effectuer. Alors comme le titre du cours le laisse entendre, bon, ils essayent de chasser le contrôle et parfois il va revenir au galop quand même, comme nous le verrons. Alors d'abord sur les langages d'expression, juste les tableurs, Excel, c'est un très beau langage en fait. Et puis ses extensions vers les langages Dataflow ou réactifs d'une part, vers les langages fonctionnels de l'autre, et on parlera aussi un peu de langages logiques et par contrainte comme Prolog. Le 15 février, on parlera de continuation des opérateurs de contrôle qui sont un moyen, qui donnent aux programmeurs des moyens pour définir ses propres structures de contrôle d'une certaine manière. Alors les continuations, c'est un concept riche qu'on va aborder sur au moins trois angles. Le premier, c'est comme un outil sémantique. Ça a été introduit pour donner la sémantique du go-to non local en Algol. Le deuxième, c'est comme outil de programmation, notamment si on programme dans un langage fonctionnel en style à passage de continuation. Et le troisième, c'est une construction de certains langages, donc les opérateurs de contrôle qui permettent au programme de manipuler ses propres continuations en style direct. Le 22 février et le 29 février, on va parler des effets, donc au sens des effets algébriques, effets définis par l'utilisateur et gestionnaire d'effets. Donc ça, c'est le développement le plus récent dans cette lignée de travaux, ça date des années 2010. Et on va couper le cours en deux parties. Il y aura une partie pratique, où on montrera comment partir des exceptions et arriver jusqu'aux gestionnaires d'effets en OCaml 5. Et avec plein d'exemples d'utilisation pour programmer ses propres coroutines et ses propres threads. Et le 29 février, ce sera un cours plus théorique, où on partira donc des monades, qui est une théorie de la propagation des effets, et on verra comment est née la théorie des effets algébriques, qui est plutôt une théorie de la génération et du traitement des effets. Et pour finir, on aura deux séances, plus de vérification, comment vérifier les propriétés du contrôle dans les programmes. La première séance, le 7 mars, sera par typage ou par analyse statique des effets, notamment comment détecter les exceptions qui s'échappent, par exemple, soit avec des techniques de système de type, soit avec des techniques d'analyse statique de langage fonctionnel. Et la dernière séance, le 14 mars, sera consacrée aux logiques de programme pour le contrôle et les effets. D'abord, les logiques de Hoare pour les structures de contrôle classiques, les logiques de séparation pour des structures plus riches comme les coroutines ou les générateurs, et puis des travaux récents sur la logique de séparation appliquée au gestionnaire d'effets. Voilà, donc un cours qui va être bien rempli, comme vous le voyez. Et à partir donc du 8 février, donc dans deux semaines, nous aurons aussi un séminaire qui va éclairer et approfondir certains aspects du cours, ou certains d'autres aspects, et aborder des aspects que je ne vais pas trop aborder. Donc les deux premières séances, ça va être qu'est-ce qui se passe en dessous, à plus bas niveau que le langage source. Donc le 8 février, Caroline Collange de l'INRIA de Rennes nous parlera un peu de ce qui se passe dans les architectures de processeurs modernes et comment ce contrôle à la von Neumann peut être concilié avec le parallélisme à l'intérieur de la puce. Le 15 février, ce sera Delphine Demange, de l'Université de Rennes, qui nous parlera cette fois-là de compilateurs, de représentations intermédiaires de programmes pour la compilation. Certaines dont on va parler aujourd'hui, le graphe de flot de contrôle étant très, très classique et très explicite sur le contrôle, et d'autres étant plus modernes, étant justement plus déclaratives et très intéressantes. Alors les deux séances d'après sera consacrée aux continuations. D'abord Andrew Kennedy de l'entreprise Meta qui nous parlera de l'utilisation des continuations comme représentation intermédiaire dans des compilateurs pour langage fonctionnel. Et le 29 février, j'ai un grand plaisir d'accueillir Olivier Danvy de l'Université nationale de Singapour qui nous parlera de son expérience de toute une vie autour des continuations. Et on finira avec deux exposés sur les effets, les gestionnaires d'effets et deux langages expérimentaux, qui explore ce nouveau mécanisme. Donc le premier exposé sera par Mattia Pretnar de l'université de Ljubljana, qui, quand il faisait sa thèse en Écosse, a été un des premiers donc à explorer l'utilisation pratique des gestionnaires d'effets pour faire un langage de programmation qui s'appelle F, et qui nous montrera donc comment le chemin qu'il a mené de la théorie des effets algébriques jusqu'à ces langages. Et le 14 mars, nous aurons Dan Lyon, qui est chercheur à Microsoft Research et qui nous parlera donc du langage COCA, qui est un autre langage avec des effets, des gestionnaires d'effets, et notamment donc le design, mais aussi la compilation efficace. Voilà. Et sur ce, je pense qu'il est temps de commencer le premier cours à proprement parler. Donc le premier cours qui est consacré à la naissance des structures de contrôle et en particulier du chemin donc qui mène du go-to, des branchements non structurés, à ce qu'on appelle aujourd'hui la programmation structurée. Alors on va remonter encore une fois à 1945, donc l'aube de l'informatique moderne. Donc 1945, c'est l'année où John von Neumann publie son célèbre rapport, le Draft of a Report on the EDVAC, qui sera le premier premier ordinateur moderne, premier calculateur programmable, un programme enregistré en mémoire. Et en fait, à peu près à la même époque, Alan Turing explorait les mêmes idées, et ça allait devenir le Automatic Computing Engine, un premier ordinateur commercial. Alors les travaux de Turing sont moins connus que ceux de von Neumann, mais je crois qu'ils se citent mutuellement, donc ils connaissaient les uns les autres leurs travaux, et en fait il y a une convergence très forte entre les architectures que décrivent donc von Neumann et Turing. Et donc dans les deux architectures, il y a un registre spécial qu'on appelle aujourd'hui le PC, le Program Counter, le compteur de programme, qui contient l'adresse en mémoire de la prochaine instruction. Donc les instructions sont codées par des mots en mémoire, vives, au même endroit que les données. La boucle principale du processeur, c'est aller chercher la prochaine instruction à l'adresse donnée par le PC et l'exécuter. Et les instructions normales de calcul incrémentent le PC, ce qui fait une exécution en séquence. On va exécuter ensuite l'instruction qui suit en mémoire, mais il y a aussi des instructions de branchement qui positionnent la valeur du PC, et ce qui permet donc de sauter à un point quelconque du programme. Donc là, c'est le même petit programme en pseudocode que dans l'introduction, mais vous voyez un peu plus ce qu'il calcule. En fait, il va afficher les valeurs successives des factoriels, factoriels de 1, de 2, de n, etc. Grâce à la boucle, grâce au branchement à la fin. Donc on a juste une boucle infinie. Alors les boucles infinies, c'est pas très utile, on préfère pouvoir s'arrêter aussi, et donc les processeurs modernes fournissent des instructions de branchement conditionnelles. Donc qui soit positionnent le PC, si une condition est vraie, donc un saut est réalisé si une condition est vraie, par exemple si un registre contient la valeur 0 ou une valeur non nulle, et continue en séquence si la condition est fausse. Et donc là, on a une boucle comptée, cette fois-ci, qui va calculer factoriel de n. Et vous voyez qu'à la fin, on a un branchement conditionnel, branch if node 0, sur le registre R1, qui donc itère, mais un nombre fixé de fois ce calcul. Ceci dit, si vous regardez les propositions de von Neumann et de Turing, ou même les tout premiers ordinateurs, réalisé matériellement, il n'y a pas de branchement conditionnel. Tout le monde utilise le fait que le code est stocké en mémoire vive et donc peut s'auto-modifier. Le code peut aller changer des instructions de son propre programme. C'est quelque chose qui se fait plus beaucoup, mais qui était très à la mode à l'époque parce que ça permet de synthétiser des opérations qui ne sont pas dans le hardware à l'origine. Alors un exemple, si imaginez que vous vouliez faire un branchement vers l'adresse 0 si le registre R1 vaut 0 et vers l'adresse 4 si le registre R1 vaut 1. Et on suppose que l'instruction branch est encodée par cet entier, donc 0x76 0000000 plus n, la destination. Et donc là, ben, j'ai un petit calcul de 4 instructions qui va calculer, qui va synthétiser l'instruction branche qui va bien, donc soit branche 0, soit branche de 4, la stocker à l'adresse 200, et 200, c'est l'instruction qui suit immédiatement l'instruction de stockage, donc elle va être exécutée juste après l'instruction de stockage et sautée à l'adresse 0 ou à l'adresse 4. Bon, heureusement, on fait plus trop ça maintenant. Les exemples que je vous donne en pseudocode sont un peu trompeurs. En fait, c'est pas à ça que ressemble le code dans la mémoire de l'ordinateur. Il ressemble juste à des mots, typiquement de 32 bits. Et vous avez une documentation du processeur qui vous explique, de manière très détaillée et très pénible à lire, comment construire ces mots de 32 bits. Donc ça, c'est l'instruction de branchement conditionnel de l'architecture Power. Et alors, il y a une partie fixe. Il y a des champs B0 et BI, des champs de bits qui représentent les conditions qu'on veut tester. BD, qui est le displacement, qui est donc le déplacement, la valeur à ajouter au PC si la condition est vraie, et puis encore d'autres bits dont je ne sais pas trop ce qu'ils font. Donc tout ça est évidemment très facile à exécuter par la machine, mais aussi très difficile à écrire pour les humains et absolument impossible à relire. Donc très très vite, donc en fait les gens au début de l'informatique et même jusque vers à peu près 1980 programment principalement décrivent leurs programmes principalement avec des organigrammes de programmes, aussi appelés ordinogrammes ou flowcharts. Bah, combien d'entre vous ont déjà travaillé avec ça? Oui, quand même. Je me souviens de ma première calculatrice programmable au début des années 1980, dont le manuel venait avec un tutoriel expliquant qu'il fallait absolument dessiner des ordinogrammes de programme, puis ensuite écrire le code à la main avant de le rentrer dans la calculatrice. En tout cas, la plupart d'entre vous connaissent déjà ça, c'est une représentation graphique, informelle, de ce que fait un programme, où ben, on suit les flèches, et puis ça désigne les différents chemins d'exécution au sein du programme. Donc là, vous, en clignant des yeux, vous pouvez voir assez facilement une boucle comptée qui va afficher une étoile pour i variant de 1 à 4, et s'arrêter quand i vaut 5. Et du coup, donc une fois qu'on a conçu son programme comme ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il faut mettre des instructions de la machine dans chacune des boîtes, les coder en binaire, les placer en mémoire et ajouter les branchements conditionnels ou inconditionnels pour réaliser donc les flux du contrôle. Bien. Bon, alors très vite, on a voulu automatiser, mécaniser une partie de ces opérations. Et donc, dès 1947, apparaissent des programmes appelés les assembleurs. Et donc, ils prennent en entrée un langage d'assemblage qui est une représentation textuelle du langage de la machine. On a des mnémoniques pour nommer les instructions, comme MUL pour la multiplication, SUB pour la soustraction, BRNZ pour brancher sinon zéro. Des étiquettes pour désigner les points de programme. Alors ça, c'est très utile. Vous voyez ici, je pose une étiquette sur cette instruction, again, et puis là, j'y fais référence dans l'instruction de branchement. Donc, c'est un nom symbolique pour une adresse de code en mémoire qui va être déterminée beaucoup plus tard, au moment de l'assemblage, voire de l'édition de liens. Et donc, moi, le programmeur, je n'ai pas à me préoccuper de calculer exactement cette adresse. Et puis, il y a des commentaires. Et ça, c'est très utile parce que c'est ça, en fait, qui aide qui rend un programme en assembleur lisible et qui permet de le discuter avec d'autres personnes. Bien. Alors, les assembleurs évoluent en capacité, et vers 1955, IBM introduit la notion de autocoder, donc de système de codage automatique, qu'on appellerait plutôt aujourd'hui un macro-assembleur. C'est l'idée, donc, qu'on a un assembleur où il y a des pseudo-instructions qui correspondent pas à des instructions de la machine, mais plutôt à des séquences d'instructions souvent utilisées. Alors, un exemple un peu artificiel, je peux avoir deux pseudo-instructions qui m'aident à écrire des boucles comptées, donc begin loop, end loop. Donc je leur donne une étiquette, le registre qui va servir à compter, la valeur initiale, ici 0, la valeur finale, ici 100, et ça va m'expanser, donc begin loop va s'expanser en une initialisation de R1, une pose d'étiquette, end loop en un incrément de R1, une comparaison avec la borne haute et un branchement conditionnel. Bon, ça a l'air de rien, mais ça permet déjà de programmer un peu plus haut niveau qu'au niveau de l'assembleur. Mais on arrive maintenant dans les premiers vrais langages de programmation avec Fortran. Donc Fortran, c'est un design qui date de 1957, donc Fortran 1. et dont la grande nouveauté, c'était de permettre d'écrire des expressions complexes en notation algébrique usuelle, qui vont être automatiquement traduites en séquence d'instructions machine. Donc Fortran, à l'origine, ça veut dire Formula Translator, donc traducteur de formule. Et donc à gauche, vous avez le code source Fortran qui résout l'équation du second degré. Et vous voyez que c'est quand même assez lisible, hein, on y retrouve presque ses maths. Et à droite, vous avez un exemple de code assembleur qui fait le même calcul. Vous voyez qu'il est beaucoup plus compliqué, il y a une dizaine d'instructions, il faut gérer des temporaires T1, T2, pour les résultats, T3 pour les résultats intermédiaires. Donc ça, c'est la grande innovation de Fortran, mais il y en a une deuxième qui nous concerne davantage dans ce cours, c'est la première structure de contrôle, à savoir la boucle comptée. Donc en Fortran, on a cette syntaxe qui est maintenant célèbre, do, sans, donc sans c'est une étiquette qui marque la fin de la boucle, pour i variant de borne basse à borne haute, donc ici pour i variant de 1 à n. Et donc l'effet, c'est de répéter les lignes qui sont entre le do et l'étiquette sans, exclues, donc sans, ça veut dire, c'est la première instruction qui suit la boucle, donc de répéter ces instructions, autant de fois qu'il faut, pour, avec i prenant les valeurs 1, 2, 3, jusqu'à n. Et parce que c'est une construction du langage, le compilateur Fortran, même les tout premiers compilateurs Fortran, arrive à produire du code assez soigné pour ça. Bon, par exemple, savoir s'il faut mettre le test au début de la boucle ou à la fin, est-ce qu'il y a lieu de dérouler la boucle si le nombre d'itérations est très faible. Donc c'est la naissance des optimisations de boucles que font beaucoup de compilateurs contemporains. Alors le reste du contrôle en Fortran 1 est plutôt du niveau assembleur. Donc oui, il y a des étiquettes, comme vous avez vu, et il y a une instruction go-to, que vous pouvez écrire en deux mots ou avec un seul mot, parce que les blancs ne sont pas significatifs en Fortran, qui fait un saut inconditionnel à l'étiquette, exactement comme en langage d'assemblage. Alors il y a un branchement conditionnel qui se présente sous une forme un peu étrange, c'est un branchement ternaire, qui teste sur le signe d'une variable numérique x. Donc suivant que x est strictement négatif ou nul ou strictement positif, on se branche aux étiquettes L1, L2 ou L3. Par exemple, ici, si vous voulez mettre dans x la valeur absolue de x, vous allez faire un branchement conditionnel sur x qui va en 701 s'il est négatif, et là vous inversez le signe, et en 702 s'il est nul ou strictement positif, auquel cas vous sautez par-dessus l'inversion du signe. Autre construction un peu étrange de Fortran 1, c'est le branchement à une étiquette calculée. Donc vous pouvez faire assign une étiquette to une variable, et ça va mettre dans la variable essentiellement l'adresse de l'étiquette en mémoire, donc un pointeur de code. Et ensuite vous pourrez faire go to une étiquette. Et il faut attendre en fait Fortran 4, 1961, pour avoir le branchement conditionnel logique qui nous est familier, qui est if condition booléenne, go to une étiquette. Alors, encore une fois, point LT, point, ça veut dire less than, donc c'est strictement plus petit que. Voilà. Et alors, l'étape d'après, c'est Algol. Donc, qui apparaît dans sa forme finale forme standardisée en 1960. Alors Algol reprend l'idée des expressions arithmétiques de Fortran, bien sûr, et cette idée que les expressions sont formées à partir d'expressions élémentaires, des constantes, des variables, combinées par des opérateurs, plus, moins, multipliés. Et Algol applique la même idée pour les commandes, les statements, que je vais noter petit s. L'idée, c'est qu'ils vont être construits à partir de commandes élémentaires, comme l'affectation, x, deux points égale, une expression, ou l'appel de procédure, dont on parlera beaucoup la semaine prochaine. Et donc ces commandes élémentaires peuvent être combinées via des structures de contrôle. Alors la plus connue, la plus simple, pardon, c'est la séquence, S1 suivi de S2, S1 point virgule S2, qu'on écrit dans les langages modernes. Alors en Algol, c'est combiné avec la notion de bloc, donc begin, S1, S2, S3, etc. Ça fait une exécution en séquence de S1, S2, S3, etc. Et puis end, qui termine le bloc. Alors le bloc a d'autres rôles aussi, de déclaration de variables, etc. Donc il y a la séquence, il y a la conditionnelle, if condition booléenne, if expression booléenne, then S1, else S2. Donc si BE est vrai, alors exécuter S1, sinon exécuter S2. La boucle comptait, comme en Fortran, mais avec une syntaxe plus jolie, for i variant de E1 à E3 par étape de E2, exécutait S, donc S c'est le corps de la boucle, qui va être répété, et puis une boucle générale, boucle while, répétait S tant que la condition BE est vraie. Donc voilà, donc ça c'est complètement, c'est bien connu maintenant, c'est complètement naturel, et en fait ça apparaît, je crois pour la première fois, dans Algol. Et ça s'accompagne d'un changement de point de vue sur les programmes et sur les langages. D'abord au niveau de la syntaxe, comment est-ce qu'on décrit la syntaxe d'un langage? C'est à ce moment-là que sont introduits des formalismes grammaticaux, grammaire formelle, comme la forme de Bacchus Nord, BNF. Et donc là, je vous ai remis un petit langage de commande décrit sous cette forme grammaticale. Et puis, il faut aussi inventer les algorithmes d'analyse syntaxique qui vont avec et qui sont fondamentalement récursifs, ou éventuellement avec des piles. Mais le principe de l'analyse syntaxique change. Mais il y a aussi un changement au niveau de la sémantique. Alors, sémantique déjà intuitive, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on lit les programmes? L'idée s'impose donc que la signification d'une commande est entièrement déterminée par celle de ses sous-commandes, et donc on peut relire le programme en partant de sous-commandes, et puis en voyant comment ils sont combinés avec des conditionnels, des boucles, etc. Et ça va aussi ensuite inspirer les premières sémantiques formelles, donc sémantiques dénotationnelles, où l'idée, c'est d'associer à chaque commande un objet mathématique, sa dénotation, sa signification mathématique, et idéalement, la dénotation d'une commande composée, comme un ifs and else, est une combinaison, une fonction des dénotations de BE, de S1 et de S2. Voilà. Ceci dit, il y a aussi du contrôle non structuré en Algol. Donc vous pouvez faire du go-to, et vous pouvez poser des étiquettes. La syntaxe est très simple, pour poser une étiquette, c'est étiquette 2.commande, et le saut, l'étiquette L, donc c'est une commande de base élémentaire qui s'écrit, alors suivant les dialectes et les auteurs, soit go to en deux mots, soit go to en un mot, soit go, tout court. Go. Alors peut-être la seule nouveauté d'Algol en termes d'étiquettes et de branchements non structurés, c'est que les étiquettes ont une portée, ont un scope, un peu comme, vous savez, les variables locales, dans des langages comme de la famille Algol, ont généralement une portée, par exemple le bloc dans lequel elles sont définies. Et bien de même, en Algol, une étiquette a une portée qui est le bloc qui contient la définition de l'étiquette, le L2 qui définit l'étiquette. Et ça a pour conséquence qu'on ne peut pas sauter à l'intérieur d'un bloc depuis l'extérieur d'un bloc. Pourquoi ça? Ben voilà les trois cas possibles, d'accord? Ici, on a l'étiquette L et le go-to L qui sont dans le même bloc, donc le saut est au même niveau, et c'est possible, puisque le go-to voit est dans la portée de la définition de l'étiquette. Là, on a un saut vers l'extérieur, donc à l'intérieur d'un bloc, on a go-to L, et L est défini à l'extérieur du bloc, mais c'est bon, puisque le go-to est dans la portée de la définition, d'accord? Le cas qui ne marche pas, c'est celui-là, go to L, et ensuite L est défini dans un sous-bloc. Et pourquoi ça ne marche pas? Ben, c'est parce que le go to n'étant pas dans la portée de la définition de ce L, il ne le voit pas. D'accord? Et donc soit ça fait une erreur, l'étiquette L n'est pas définie, soit ça saute à une autre étiquette L, qui elle est définie dans un scope plus grand. Voilà. Et donc ça fait naître un style de programmation, donc cette combinaison du go-to, de branchement de contrôle non structuré, et puis de structures de contrôle, comme les boucles ou les conditionnels, ça fait naître un style, Algol, qui est encore très utilisé de nos jours, et qui en fait s'impose très vite comme standard, comme style standard pour décrire et publier les algorithmes, à la place des organigrammes qu'on utilisait avant pour publier les algorithmes. Donc dès 1960, la revue Communications of the ACM, dont on va beaucoup parler dans ce cours, parce qu'elle a joué un rôle vraiment essentiel dans la propagation de ces idées. Donc dès 1960, la revue Communications of the ACM exige que les algorithmes publiés dans la revue soient décrits par du code Algol 60 bien écrit. Et donc voilà un exemple typique de cette époque. Donc là, vous avez l'algorithme 95, qui, alors je sais pas trop ce qu'il fait, mais vous voyez, c'est du code Algol, largement commenté, hein, et puis écrit dans ce style, avec des if, des for, et une bonne dose de goto quand même. Hein. Là, ça ressemble presque à du Fortran, je pense que l'auteur aurait pu faire un petit effort. Ensuite aussi, c'est ça qui a donné naissance au style dit pseudocode qu'on trouve dans beaucoup de livres d'algorithmique, d'accord, qui est essentiellement une sorte d'algol avec des morceaux qui sont juste en anglais. Donc cette combinaison GoTo plus contrôle structuré, ben on le retrouve dans beaucoup de langages impératifs jusqu'à nos jours. Bien sûr, les descendants de la famille Algol, donc Algol 68, Algol W, Pascal, Ada, mais aussi des langages un peu différents comme Simula, qui était le premier langage orienté objet, PL1, qui était le langage système poussé et développé par IBM, et puis donc des langages d'autres langages système comme C, et puis système et objet comme C++. Et en parallèle, donc des langages qui avaient commencé par juste des GoTo, ou GoTo plus boucle comptée, donc comme Fortran, ou comme Basic, encore, qui est né 20 ans après Fortran, mais a suivi les mêmes évolutions avec 20 ans de retard. Donc ces langages finissent par adopter des structures de contrôle qui viennent d'Algol. Donc Fortran 77 introduit le if then else. Fortran 90 introduit la boucle do while. Et il faut attendre en fait assez tardivement pour voir apparaître des langages impératifs sans GoTo. Donc le premier que je connais c'est Modula 2, en 1980, donc un successeur de Pascal, inventé par Wirth, l'auteur de Pascal. Et puis ben, des langages qui sont maintenant très populaires comme Python, introduit en 91, ou Java, introduit en 95, partent dès le début sans GoTo. Et on résistait jusqu'ici à la pression d'ajouter du contrôle non structuré. Bien, alors oui, donc ces langages post-Algol, bien sûr, bon, ils ont les structures de base d'Algol et avec quelques variations ou quelques extensions. Par exemple, il y a souvent des syntaxes spéciales pour les cascades de tests booléens. If, then, else if, then, else, par exemple. Ou qui est une jolie syntaxe en Lisp. Donc c'est la construction compte de Lisp. Vous lui donnez des paires de conditions et virgule action à faire si la condition est vraie. Il y a des branchements à NK, donc des analyses de cas sur la valeur d'une variable de type entier ou d'un type énuméré. Donc à gauche, c'est la syntaxe Pascal, à droite, c'est la syntaxe C, C++, Java. Les boucles aussi, un certain nombre de variations, donc les boucles avec test au début, while condition, do commande, les boucles avec test à la fin, do condition, while, pardon, do commande while condition est vraie, ou repeat commande until condition devient vraie. Il y a des boucles avec test au milieu, donc ça se présente comme une boucle infinie, et au milieu, vous pouvez dire bah, exit if condition est vraie, exit if some, une autre condition est vraie. Ça se trouve en ADA, par exemple. De même, il y a des hybrides entre boucle comptée et boucle générale, donc des boucles comptées mais avec une condition d'arrêt anticipée. On trouve dans PL1 ou dans Algol 68. J'aime bien la construction d'Algol 68 parce qu'elle est vraiment très générale. Donc la construction de base c'est do command odd, et c'est une boucle infinie, et vous pouvez qualifier ça par for index, from first, by increment, to last, et while condition est vraie. Voilà. Et puis, dans des langages donc plus récents et de plus haut niveau, comme Python ou Java, vous avez aussi des boucles qui itèrent sur une collection de valeurs. Donc, on en parlera d'itérateurs la semaine prochaine. Par exemple, for item in collection, effectuer la commande S en Python. Bien. Ah, et last but not least, il faut parler des constructions de sortie anticipée de boucles, parce que vous verrez qu'elles jouent un rôle assez important dans l'expressivité du contrôle structuré. Donc ça, c'est ce qu'on trouve en C, C++, Java. Il y a la construction break, qui arrête complètement la boucle englobante, et la construction continue, qui arrête l'itération courante, commence immédiatement la prochaine itération. Alors on trouve ça dans d'autres langages comme ADA, Perl. Et là où ça devient vraiment utile, c'est quand ça permet aussi de sortir de plusieurs niveaux de boucles imbriquées. Donc pas juste de la boucle qui englobe immédiatement le break, mais par exemple de deux boucles ou trois boucles. Ça s'appelle le multi-level exit dans la littérature, la sortie à plusieurs niveaux. Et alors il y a deux syntaxes, soit on compte le nombre, on donne le nombre de boucles duquel il faut sortir, donc sortir de la énième boucle englobante. Par exemple, on voit ça dans le shell, le born shell, exit N, où chaque boucle en fait peut porter une étiquette et le break peut être qualifié par l'étiquette de la boucle dont il faut sortir. Donc ça c'est peut-être plus clair, c'est en Java par exemple. Ici vous avez deux boucles imbriquées, une sur X et une sur Y, chacune avec une étiquette X loop et Y loop, et donc le break peut dire très précisément de quelle boucle on veut sortir. Bien. Alors maintenant, je voudrais vous parler donc de programmation structurée et du lien avec le contrôle structuré qu'on vient de voir. Alors on a tendance à mélanger les deux concepts, donc j'essaie et c'est d'autant plus facile que en fait ces deux disons de sujets d'intense discussion à la même période, les années 1965 et 1975, et qui se recouvrent, mais c'est pas exactement la même préoccupation. Donc j'essaye de vous les décrire tous les deux. D'abord en commençant par le mouvement pour une programmation structurée. Donc ça, c'est en fait un changement de point de vue sur le logiciel. Il s'agit de passer de la vision un programme, c'est un organigramme, et qu'on va traduire en code machine ou en code assembleur ensuite, et puis on va agrafer l'organigramme au listing, et c'est ça qui va faire la documentation, qui va représenter le programme. Donc on passe de cette vision très traditionnelle à une vision qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus familière pour nous, qui est qu'un programme, c'est un texte source. C'est un texte qui est construit, c'est un texte qui est structuré grâce aux structures fournies par le langage. C'est un texte qui est directement lisible, sans organigramme. Bon, en général, il faut s'appuyer sur des commentaires, mais on n'a pas besoin de cette description complètement informelle en plus. C'est un texte sur lequel on peut raisonner, d'abord informellement, par exemple, pour estimer la complexité, combien de tours de boucle on va faire, etc. Et puis, plus tard, raisonner mathématiquement, avec par exemple des logiques de programme, comme la logique de Hoare. Alors le manifeste de ce mouvement pour une programmation structurée, donc c'est un livre intitulé Structured Programming, publié en 1972, écrit par Dahl. Donc Dahl, c'est un des auteurs de Simula, donc un des inventeurs de la programmation par objet, et puis Dijkstra et Hoare, qui ne nécessitent pas d'introduction. Alors c'est un livre un peu curieux, donc c'est une collection d'essais, de chapitres, d'accord, où chacun des auteurs dit un peu ce qu'il a dans la tête sur qu'est-ce que c'est qu'un bon programme, qu'est-ce que c'est qu'un bon langage, comment on devrait faire. Alors c'est d'une lecture un peu pénible aujourd'hui, tant ces idées sont maintenant évidentes pour nous, mais c'est aussi grâce à ce livre et ce genre de position papers que l'idée s'est imposée. Non sans combat, d'ailleurs. Et puis, donc l'autre partie, qui date aussi des années 65-75, c'est la polémique autour du contrôle structuré. Donc là, c'est une querelle entre deux styles de programmation, une programmation avec beaucoup de go-to, souvent par transcription naïve d'un organigramme, et au bout d'un moment, les programmeurs pensaient en termes de go-to, d'accord, c'était devenu une habitude, et une programmation utilisant principalement des structures de contrôle, des conditionnels, des boucles, souvent écrites directement sans organigramme. Alors le slogan de cette polémique, donc c'est le titre de la célèbre communication de Dijkstra, « Go-to statement considered harmful », donc la commande « go-to », est nuisible. Donc c'est le titre d'une brève communication donc de Dijkstra dans Communications of the ACM en 1968. En fait, le titre n'est pas de Dijkstra et a été choisi par la rédaction de la revue. Bon. Alors, donc Dijkstra a écrit ça en 68. C'était pas le premier à observer que en gros, quand il y a beaucoup de go-to, que le go-to n'est pas vraiment très utile, ni les organigrammes. Par exemple, Monsieur Shore, en 1966, écrit que depuis 1960, il a pris l'habitude d'écrire les programmes sous forme de plans, outlines, en utilisant des conventions d'indentation pour indiquer le flow de contrôle. Donc pensez à l'indentation significative en Python ou en Haskell, c'est une idée assez moderne, et qui n'a jamais trouvé nécessaire de faire exception à ces conventions et d'utiliser des commandes go to. Et que, initialement, donc en fait, il garde ses plans comme des documentations de programme, au lieu de dessiner des organigrammes, et il code le programme en assembleur depuis le plan, et tout le monde préfère ses plans aux organigrammes. En 1963, donc Peter Naor, donc un des inventeurs d'Algol, fait ce commentaire à propos de l'enseignement de la programmation. Il fait remarquer que c'est très souvent un go-to qui va en arrière est en fait une boucle for déguisée, une boucle for qui s'ignore. Et vous serez agréablement surpris de voir comment la clarté de l'algorithme s'améliore quand vous insérez la boucle for qui va bien. Et il conclut que si le but d'un cours de programmation, c'est d'apprendre à bien programmer en Algol, l'utilisation d'organigrammes, de programmes, est plus un problème qu'une aide, d'après lui. Et alors, on en arrive donc au brûlot d'Dijkstra, qui va vraiment mettre le feu aux poudres. Donc, 1968, Go-to statement considered harmful. Et donc, il commence très fort dans le style habituel de Dijkstra. Donc, depuis quelques années, j'ai observé que la qualité, le talent d'un programmeur est une fonction inverse de la densité des go-to qu'il écrit dans ses programmes. Mais plus récemment, j'ai découvert pourquoi l'utilisation de la commande go-to est aussi désastreuse, a des effets aussi désastreux. Je me suis convaincu que la commande go-to devrait être abolie de tous les langages de programmation de haut niveau, c'est-à-dire tous les langages sauf peut-être le code machine pur. Bon. Le reste de l'article, c'est justement, il exprime l'argument, la découverte qu'il a faite, donc l'argument qui montre que le go-to, ça va pas du tout. Et cet argument, c'est une réflexion sur la difficulté de savoir où on en est dans l'exécution d'un programme. Quel chemin a été suivi depuis le début du programme, qui est quelque chose d'assez important si on veut raisonner, savoir où est-ce qu'on en est, et quels calculs ont déjà été effectués, quels calculs restent à faire, et puis peut-être un jour d'écrire des invariants, par exemple, ou des assertions logiques. Et donc, il commence par observer que si le programme est constitué uniquement de séquences et de conditionnels, le point de programme courant suffit à décrire exactement l'historique de l'exécution. D'accord ? Ici, si on est dans cette branche else-if, on sait que la branche if n'a pas été prise, la branche then n'a pas été prise, donc x n'est pas égal à 0. On sait que la branche else-if then a été prise, donc y est égal à 0, et on a exécuté les commandes qui sont là, et on sait qu'on ne va pas exécuter les commandes qui sont là, et qu'ensuite on sautera forcément là, etc. Donc juste le point de programme courant suffit à décrire exactement ce qui s'est passé et ce qui reste à faire. Maintenant, si vous avez des boucles, la situation n'est pas la même, comme le reconnaît Dijkstra. Par exemple, ici, mes conditionnels sont dans deux boucles imbriquées, et peut-être je suis à la deuxième itération de la première boucle et cinquième itération de la deuxième. Et là, Dijkstra dit, oui, mais il n'y a qu'à compter le nombre d'itérations des boucles, et ça va donner, en fait, un système de coordonnées. Donc ça, le nombre d'itérations pour les boucles et point de programme courant, ça donne ce qu'il appelle un système de coordonnées pour désigner l'endroit où on en est dans l'espace de l'exécution. Bon. L'observation qui tue, c'est que si maintenant vous avez des go-to arbitraires, donc ici par exemple j'ai mis dans la boucle else finale un go-to conditionnel à la clause then initiale, d'accord, ben, si vous avez des go-to arbitraires, ben, vous comprenez plus rien. Et comme dit Dijkstra, il devient terriblement difficile de trouver un ensemble de coordonnées qui fait du sens et qui permet de décrire la progression, l'état, le point courant où on en est dans le calcul. Et en particulier, il rejette évidemment la solution consistant juste à compter le nombre d'instructions exécutées, qui n'est pas un concept très utile si vous voulez ensuite écrire par exemple des invariants ou des choses comme ça. Donc voilà l'argument qui tue de Dijkstra. Et suite à ça, donc ça a déclenché une énorme polémique. Beaucoup de gens disant, mais oui, il a raison, moi aussi, je dis à mes programmeurs qu'il faut moins, faut pas mettre beaucoup de go-to, c'est plus facile à relire. Et d'autres disant, écrivant des lettres d'insultes à Dijkstra, disant, mais vous êtes en train de tuer le métier de programmeur. Knuth, dans un de ses papiers, fait une comparaison amusante entre ça et la polémique entre Hilbert et l'inventeur de la logique intuitionniste. Brouwer, oui. Entre Hilbert et Brouwer, donc Brouwer disant, bon, la logique intuitionniste, c'est quand même beaucoup plus beau, et Hilbert disant, oui, mais on peut plus faire de mathématiques si on n'a plus la logique classique. Là, il y a un certain nombre de programmeurs qui disent, mais on peut plus faire, plus programmer si on n'a plus GoTo. Et même un grand monsieur comme Donald Knuth semble frappé par, semble un peu surpris, donc il raconte qu'il est pris dans la polémique vers 1969 lorsqu'il enseigne un cours d'introduction à la programmation pour la première fois, et où il est particulièrement frustré parce qu'il n'arrive pas à écrire des programmes dans le nouveau style, le style sans GoTo, et que dans ces cas-là, il court voir Bob Floyd, qui est lui aussi à Stanford, pour lui demander conseil. Voilà, donc j'aime beaucoup Knuth qui n'arrive plus à écrire de programme, mais heureusement Bob Floyd est là pour le dépanner. Et en fait, donc il y a une polémique, mais il y a aussi des études sérieuses ensuite pour savoir donc si la programmation sans GoTo est vraiment la meilleure manière d'exprimer la structure du programme, ou si finalement un petit GoTo de temps en temps c'est pas quand même acceptable, et avec modération. Et aussi pour savoir comment éliminer les go-to. Donc si vous partez d'un vieux programme avec des go-to, est-ce que vous pouvez le réécrire, alors soit au cas par cas, soit systématiquement, par transformation de programme, peut-être même par un compilateur, en un programme à contrôle structuré. Alors pour la première partie, il y a donc un excellent article de Knuth dont je tire cette citation et plusieurs des citations précédentes. Donc c'est un survey qu'il fait en 1974, donc un peu à la fin de la polémique, sur Structured Programming with Go-To Statements, où il essaye, d'abord il donne un excellent historique de la polémique, et puis il étudie, avec des exemples très bien choisis, l'impact de l'élimination des go-to sur la clarté du code, en particulier si vous éliminez les go-to mais que vous devez introduire des flags booléens pour représenter le contrôle, vous ne gagnez pas forcément. L'impact de l'élimination des go-to sur les performances, alors en supposant des compilateurs très naïfs hein, qui n'optimisent pas, comme à l'époque. Et il finit par se demander, en fait, quelles seraient les bonnes structures de contrôle au-delà de celles d'Algol pour vraiment exprimer la structure du programme telle que lui, il l'a dans la tête. Et il dit, peut-être en 1984, dans 10 ans, on aura de meilleurs langages. Bon. Je ne sais pas si, en fait, ça a été vraiment le cas, mais je pense qu'aujourd'hui, on a de meilleurs langages. Alors, je vais vous donner quelques exemples à la Knuth. Donc, le premier est presque identique à un des exemples de Knuth. Donc, c'est une table de hachage avec hachage ouvert. Donc, on a deux tableaux. A, de taille N, qui contient les clés, et B, de taille N. Alors, chez Knuth, il contient le nombre de fois qu'on accède à chaque clé. Moi, je vais juste mettre des données. Donc, B de N, c'est des valeurs associées aux clés. Et donc, voilà un petit bout de code. Bon, j'ai écrit en C parce que j'ai plus l'habitude qu'Algol. Qui rentre dans la table la clé K avec les données D. Donc, il commence par calculer la valeur de H de K, et puis qui parcourt la table jusqu'à trouver une entrée qui soit est vide, égale à 0, ou une entrée qui est égale à la clé K. Donc il y a deux jolis go-to pour sortir de la boucle, dans le cas not found et dans le cas found, et puis sinon, ben, on passe au prochain élément de la table. Dans le cas not found, ben, il faut stocker la clé dans la table, et dans les deux cas, il faut stocker la valeur D dans la table B. Donc admirez la concision du code, en particulier la manière dont il n'y a qu'une seule affectation à B qui est partagée entre les deux cas, mais il y a deux go-to, donc c'est du style un peu daté. Est-ce qu'on peut s'en passer? Alors, plusieurs solutions. Alors, on voit là une, qui est avec une boucle structurée, une boucle while, qui itère donc le parcours tant que aucune des deux conditions d'arrêt n'est vraie. Donc, il y a la première condition d'arrêt, c'est la case A de I est vide, et l'autre, c'est la case A de I contient déjà K. Et à ce moment-là, donc, il faut retester une des conditions à la fin. Donc, si la case A de I est vide, y stocker K, et dans tous les cas, stocker D. Donc, on a une petite duplication du test, d'accord, et un calcul qui va être un peu plus coûteux, à faire marquer Knuth, même si je pense qu'un compilateur moderne, en fait, est capable d'éliminer ce test, essentiellement en réintroduisant les go-to qu'on a vu sur l'exemple précédent. Bon. Donc ça, c'est un idiome. Et alors, un autre idiome qu'il n'envisage pas, parce que justement, je crois que ça n'existait pas dans les langages de l'époque, où il n'y a pas pensé à l'utiliser, c'est d'utiliser une construction comme break, pour terminer la boucle, ou return, pour terminer immédiatement la fonction. À l'intérieur, on fait une boucle infinie, qui, dans les deux cas, case vide ou case égale à k, fait ce qu'il faut et termine la boucle. D'accord. Alors, on a une petite duplication du code, B de I égale D, qui, je pense, n'a pas trop d'impact sur les performances. Et un code peut-être légèrement plus verbeux, mais peut-être aussi légèrement plus clair. Donc, je vous laisse juger. Voilà, donc ça, c'était le premier exemple que je voulais vous montrer. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, parce qu'il est encore très utilisé en programmation système en C, c'est un idiome que vous trouvez partout dans le noyau Linux et que beaucoup de gens ont adopté ensuite, c'est la libération de ressources combinée avec le rattrapage d'erreurs. Donc l'idée, c'est vous avez beaucoup de codes système qui commencent par acquérir des ressources. Par exemple, ici, on va ouvrir un descripteur sur un fichier. Ensuite, on va allouer dynamiquement un bloc de mémoire. Et dans tous les cas, que la fonction termine normalement ou sur erreur, il va falloir libérer les ressources qu'on a allouées avant de retourner. Sinon, on a des fuites de ressources et c'est pas bon. Et donc l'idiome, en fait, c'est de mettre la libération à la fin de la fonction, donc ça c'est d'une certaine manière le cas normal. Si la fonction arrive jusque là, c'est que tout s'est bien passé, elle va envoyer un code de retour égal à zéro pour dire succès, et elle va libérer donc la deuxième ressource, la première ressource, et retourner à l'aplomb. Mais l'idée, c'est que maintenant on va utiliser des go-to bien choisis pour faire retour et libération. Donc si, en cas d'erreur, si le open a échoué, il n'y a rien à libérer, donc on se branche directement sur le cas d'erreur 1. Si le malloc a échoué, on a une ressource déjà allouée, qui est le descripteur, donc on se branche sur le cas erreur 2, où on va fermer le descripteur et renvoyer le code d'erreur. Et enfin, si au milieu, une fois qu'on a acquis nos deux ressources, on a une erreur, il faut aller au cas d'erreur 3, qui lui va libérer les deux ressources et renvoyer le code d'erreur. Donc c'est du go-to, d'accord, mais on évite toute duplication du code qui libère les ressources, et ce qui est bien parce qu'il peut être non-trivial. Et par exemple, voilà un exemple où on n'utilise que du contrôle structuré et des returns prématurés, où on voit que dans ce cas-là, il faut penser à faire close, dans le deuxième cas, il faut penser à faire free puis close, et puis dans le cas sans erreur, il faut penser à faire free puis close aussi, et c'est facile de se tromper. Bon. Mais, alors observation, encore une fois, si on a des blocs et des breaks, en particulier des breaks à plusieurs niveaux, on peut faire quelque chose un peu équivalent au code avec GoTo, mais qui a l'air plus structuré. Donc l'idée, c'est simplement d'encapsuler les endroits qui peuvent lever des erreurs avec des blocs do while zero, donc c'est des boucles qui sont exécutées qu'une fois, donc c'est comme un bloc. Et le break correspond au cas d'erreur, et à la sortie du bloc, on met la libération qui va bien. Donc j'espère ne pas m'être trompé, c'est un style en fait pas très lisible, et qui en plus marcherait pas, enfin si on avait des boucles à l'intérieur de ça, donc le break pourrait ne pas se sortir du bon bloc, et il faudrait en fait des boucles, des blocs, des exits à plusieurs niveaux. Des breaks à plusieurs niveaux. Bon. Mais encore une fois, notez l'importance du exit à plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, maintenant, on va le voir un peu plus formellement, donc en se posant comme question pour la fin de ce cours. Donc, quelle est formellement l'expressivité du contrôle structuré par rapport à celle du contrôle non structuré? Donc, c'est le problème technique de l'élimination des go-to. Peut-on toujours transformer un programme non structuré utilisant uniquement GoTo et IfGoTo, ou de manière équivalente un organigramme de programme, en un programme structuré équivalent? Alors de préférence sans duplication de code, parce que si on se permet de dupliquer du code, ça a l'air assez trivial, et de préférence sans introduction de variables supplémentaires, comme des drapeaux booléens qui enregistreraient une partie du contrôle sous forme de données. Alors, le premier résultat, ou le résultat le plus connu dans cette, à ce genre de questions, donc c'est le théorème suivant, qui est que certains ont appelé le triomphe de la programmation structurée, même si vous allez voir que ce n'est pas triomphal du tout, que tout programme non structuré, ou de manière équivalente, tout organigramme de programme, est équivalent à un programme structuré contenant une seule boucle while et utilisant une variable entière supplémentaire. Alors, ça a l'air impressionnant quand on lit comme ça. En fait, c'est une vaste trivialité. Donc, je vous le fais sur un exemple. Donc, partons d'un programme qui utilise uniquement GoTo et IfGoTo. D'accord. Si vous clignez des yeux, vous allez voir un IfThenElse et une boucle. Mais voilà. La première étape, c'est de le mettre sous forme dite de bloc de base, basic blocks. Donc, un bloc de base, c'est des séquences d'affectation ou d'appel de fonction, de procédure, qui sont toujours terminées clairement, soit par un goto, soit par un if goto, else goto. D'accord? Donc, on est très très explicite sur quelle est la continuation de chaque bloc de base. Donc, vous voyez que pour le bloc numéro 1, il y avait un if goto et je l'ai complété par un else goto. Et le bloc 3 continuait en séquence dans le bloc 4, donc je l'ai mis de manière explicite un goto 4 à la fin du bloc 3. Et le bloc 4, j'ai rajouté un goto 0 pour else goto 0 pour dire clairement 0 ça va être la fin du programme, donc pour dire clairement on a fini. Bien. Ensuite, bon c'est déjà fait, mais c'est pratique de remplacer les étiquettes par des nombres 0, 1, 2, 3, 4 avec 0 signifiant fin du programme. Et maintenant, chaque goto de L va être remplacé par une affectation. PC reçoit L, ou PC, c'est la nouvelle variable de type entier. D'accord? Et donc maintenant, PC, ça va être, d'une certaine manière, c'est une variable qui désigne le prochain bloc de base à exécuter. L'exécution elle-même va se faire par un switch, donc une analyse de cas sur le PC. D'accord? Si le PC vaut 1, faire le bloc numéro 1. Si le PC vaut 2, faire le bloc numéro 2, etc. Et puis, on répète cette exécution des blocs avec une boucle while, donc qui commence avec PC égale 1 et qui répète jusqu'à PC différente 0. 0 voulant dire on s'arrête. Voilà. Donc, contrat rempli, programme structuré, une seule boucle while, une variable supplémentaire. Bon. Mais le code n'est pas plus beau que le code d'origine. D'accord? Donc, on a un petit peu perdu. En revanche, c'est une forme qui peut être intéressante. Essentiellement, on l'a mis le programme sous forme d'itération d'une fonction de transition. Si vous voyez l'organigramme, ou le programme d'origine, comme une espèce d'automate fini, en fait, le switch qu'on a construit, c'est sa fonction de transition. Vous lui donnez l'état courant dans PC, il vous redonne dans PC l'état suivant après avoir exécuté la transition. Et donc, l'analyse de cas, c'est cette fonction de transition. Là, on a choisi de l'itérer, mais on pourrait aussi choisir d'en faire autre chose. Donc, ce n'est pas inintéressant, mais ce n'est quand même pas du code très joli. Alors, il y a des variantes dans la littérature. Au lieu d'une variable entière PC, vous pouvez avoir plusieurs variables booléennes. Au lieu d'un switch, vous pouvez avoir une cascade de if then else. Bon, ça ne change rien, bien sûr. Alors, ce qui est rigolo, c'est le folklore autour de ce résultat. Donc, David Harel en a fait un article entier dans Communications of the ACM en 1980. Donc, ce résultat, il est souvent attribué à Bohm et Jacopini. Donc, un article toujours dans Communications of the ACM de 1966 intitulé Flow Diagrams, Turing Machines and Languages with Only Two Formation Rules. Le Bohm en question, c'est le Corrado Bohm qui va ensuite faire de très jolies choses en lambda calcul. Mais en fait, cet article, il montre pas du tout le résultat, le théorème qu'on vient d'énoncer, et sa démonstration n'a rien à voir avec celle qu'on vient de donner. Il montre un résultat qui est en fait beaucoup plus subtil, enfin, il emploie des techniques beaucoup plus subtiles de réécriture locale de graphes, donc qui s'attache à décomposer un graphe représentant donc un organigramme de programme, en sous-graphes qui correspondent à des structures de contrôle. Par exemple, ici, ça ressemble plus ou moins à une boucle while, et là, un if then else. Et là, en revanche, je ne sais pas trop ce qu'ils essayent de l'écrire. Et donc, comme ça, en réécrivant le graphe, de faire apparaître des structures de contrôle. Mais par exemple, ils finissent très naturellement avec plusieurs boucles while à la fin de cette réécriture. Donc c'est pas le même résultat et en fait c'est un résultat qui est pas très clair. D'ailleurs le rédacteur de CACM, la rédaction de CACM l'avait mis dans mis cet article dans la section Computational Linguistics, ce qui pour moi c'est plutôt le traitement de la langue naturelle, Computational Linguistics, mais bon. Bref, donc En fait, donc, la démonstration simple du résultat bien connu, elle apparaît dans une lettre à la rédaction de CACM, qui dit « Oh, l'article de Bohm et Jacopini, c'est bien trop compliqué, voilà moi ce que je ferais », écrite par un certain D.C. Cooper. Et cette démonstration simple et le résultat bien connu donc, est repris ensuite dans des dizaines d'articles et de livres. Il y a plus de 50 références dans l'article de Harel. Jamais attribué à Cooper, souvent attribué à Bohm et Jacopini, souvent attribué à personne. Et alors Harel s'amuse à remonter avant Bohm et Jacopini pour voir d'où ce genre d'idée pourrait bien venir, et il remonte jusqu'à Clini, 1936, qui montre donc que toute fonction récursive partielle est la minimisation d'une fonction récursive primitive. Alors minimisation, c'est essentiellement itérer jusqu'à... C'est une boucle non comptée, donc c'est une boucle while, c'est l'équivalent mathématique d'une boucle while. Et la fonction récursive primitive, bien sûr, c'est la fonction de transition qu'on a construite. D'accord. Donc voilà, d'une certaine manière, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil, mais les attributions sont parfois difficiles. Bien, mais maintenant, voyons des résultats peut-être un peu plus intéressants que cette traduction triviale vers du contrôle structuré. Et alors, il y a une notion intéressante qui a été introduite par Kosarajou en 1974, qui est la notion de réduction entre langages, ou de réduction entre structures de contrôle. Donc imaginez deux langages de programmation, L1 et L2, qui ont les mêmes commandes de base, affectation, appel de fonction, appel de procédure, mais qui diffèrent sur les structures de contrôle. Par exemple, il y en a un qui a goto et l'autre qui ne l'a pas. On dit que L1 est réductible à L2 si tout programme de L1, pour tout programme de L1, il existe un programme de L2 qui a les mêmes commandes de base, et on n'a pas le droit de les dupliquer, et qui n'utilise pas de variables supplémentaires. Donc on peut rajouter des constructions de contrôle, mais il faut préserver les commandes de base et l'ensemble des variables. Alors un petit exemple de réduction ou de non-réduction, la boucle do while, la boucle qui teste la condition à la fin de chaque itération, n'est pas réductible à la boucle while do, la boucle qui teste au début. Parce que si vous voulez traduire donc do commande S while condition BE, il y a une possibilité simple qui est de dupliquer S. Vous faites begin S suivi de while condition BE do S. D'accord? Mais vous avez dupliqué S. Ou bien vous introduisez une variable booléenne, pour savoir donc s'il faut continuer ou terminer la boucle. Donc loop qui est initialement vrai, while loop do S et loop reçoit BE. D'accord? Donc là, vous n'avez pas dupliqué S, mais vous avez introduit du contrôle, une donnée supplémentaire. En revanche, si vous avez while, do et break, pour interrompre la boucle while, ben là ça devient trivial, votre boucle avec test à la fin, c'est une boucle infinie, while, true, do, s, et if not condition, then break. D'accord? Bon. Autre exemple, peut-être encore plus simple, c'est les organigrammes sans cycle. Donc un organigramme sans cycle, c'est juste un arbre de décision, d'accord, qui fait des tests et puis exécute des commandes. En revanche, j'ai dit arbre, j'aurais dû dire DAG, graphe sans cycle, puisque certaines actions peuvent être partagées. Ici, S2 est à la fois la branche else du test qui est à gauche et la branche then du test qui est à droite. Maintenant, si vous voulez traduire ça uniquement avec des if then else structurés, ben vous êtes un peu coincé. Soit vous avez à dupliquer S2, pour qu'il apparaisse à la fois comme le else de ici et comme le then là. Soit vous introduisez une variable booléenne supplémentaire qui dit s'il y a besoin d'exécuter S2 ou pas. Et donc, dans les cas où vous faites S1 ou S3, vous laissez la variable do S2 à false. Dans les cas où il va falloir faire S2, vous la positionnez à true, et c'est seulement si elle est à vrai que vous exécutez S2. Donc là, on n'a pas dupliqué de code, S1, S2, S3 apparaissent exactement une fois, mais on a introduit une variable. Et alors, une fois de plus, je sais que c'est un peu répétitif, mais une fois de plus, si on a les boucles, ou les blocs avec une sortie anticipée break, eh bien, on peut arriver à faire une réduction au sens de Kosarajou. Donc, vous voyez que... qu'est-ce qu'on fait? Oui, dans les cas où on exécute S1 ou S3, on va exécuter break ensuite pour sauter à la fin de notre boucle. Et donc du coup, on tombe dans le cas S2 seulement quand il faut exécuter S2, et puis on va faire break pour interrompre la boucle parce qu'on n'est pas en train de faire une boucle. Voilà. Et donc, on va en arriver au principal résultat technique de cette partie du cours. Donc, c'est un résultat publié en 1973 par Peterson, Kasami et Tokura, toujours dans CACM. Un joli article intitulé « The Capabilities of While, Repeat and Exit Statements », donc « Exit » étant les breaks à plusieurs niveaux. Et il montre que le langage des graphes de flux réductibles est réductible, alors c'est pas le même sens du mot réductible, donc, un certain langage de graphes est réductible à un langage structuré avec conditionnel, ifs and else, boucle infinie et sortie multiniveau, donc break de N, pour sortir de N boucle imbriquée, et éventuellement, c'est pratique aussi d'avoir continue, donc continue de N pour reprendre la énième boucle imbriquée, bien que continue puisse s'encoder en termes de break, se réduire à break en termes, d'après la définition de Kosarajou, d'ailleurs c'est un exercice que je vous propose d'ailleurs. Bref, donc voilà, donc la cible c'est ce langage structuré, et alors la source, c'est un langage de graphe de flux de contrôle. Donc, ça, c'est la traduction française pour CFG, Control Flow Graphs. Et, alors, c'est à la fois une formalisation des organigrammes de programme, hein, donc, avec des graphes orientés avec des commandes sur les nœuds, ou des blocs de base sur les nœuds, et puis des arcs qui indiquent la propagation du contrôle. Donc les arcs, c'est les branchements qui sortent d'un bloc de base. Donc par exemple, si vous avez un seul arc, ça veut dire que le bloc de base se termine par un go-to. Et deux arcs, ça veut dire qu'il se termine par une conditionnelle ifs and else. N arcs, ça veut dire qu'il se termine par une analyse de cas, switch. Et donc ici, par exemple, vous voyez un CFG pour une boucle comptée pour i variant de 0 jusqu'à 5 exclu. Donc c'est une formalisation des organigrammes de programme, mais c'est aussi une représentation intermédiaire des programmes utilisée par beaucoup de compilateurs. Et donc Delphine Demange en parlera davantage dans son séminaire, dans 3 semaines. Mais la plupart des compilateurs, en fait, traduisent les codes d'entrée dans des représentations de plus bas niveau sur lesquels ils peuvent ensuite faire des transformations, des optimisations, etc. Et, excusez-moi, et c'est avantageux de... d'avoir une représentation intermédiaire qui n'est pas structurée, si votre langage d'entrée n'est pas structuré, par exemple vous faites un compilateur Fortran, ou si votre compilateur traite plusieurs langages, Fortran, C, C++, etc. Bref, donc c'est ça les graphes de flux de contrôle, une formalisation des organigrammes qui est très utile dans les compilateurs, alors aussi parce que ça permet d'utiliser des algorithmes de graphes intelligents. Alors, quelques définitions... Merci de votre patience. On va parler de domination. Donc, dans un tel graphe, on dit qu'un nœud A domine un nœud B si A est forcément exécuté avant B. Donc tout chemin qui va de la racine du graphe vers B passe forcément par A. Alors bien sûr, tout nœud domine lui-même. Et ici, sur ce graphe, le nœud A domine tous les autres, B, C, D, E, puisqu'on est... forcé de passer par A avant d'accéder les autres. D domine E, parce qu'on ne peut pas aller directement à E sans passer par D. En revanche, B ne domine pas D, par exemple, puisqu'on peut aller de A, de la racine jusqu'à D, en passant par l'autre branche et en évitant B. D'accord ? Et alors, pourquoi cette notion est intéressante ? Parce qu'elle permet de classifier les arcs. Donc, la plupart, quelques arcs, de A vers B ont la propriété étrange que B domine A. C'est-à-dire que, par exemple, l'arc qui va de E vers A, eh bien, A domine E. Et donc, quand on prend cet arc, en fait, on est déjà forcément passé par la destination de l'arc. Et ça, c'est typique d'une boucle. C'est le branchement en arrière dans une boucle. D'accord ? Tous les autres arcs, on va les appeler des arcs en avant. Et donc c'est quoi un graphe de flux réductible ? C'est un graphe dont les arcs avant forment un graphe acyclique. Donc vous prenez le graphe, vous effacez les arcs arrière, et s'il vous reste un graphe acyclique, comme ici, alors votre graphe est irréductible, et s'il vous reste quand même une boucle, comme ici, entre B et C, il est irréductible. Et alors il y a plein d'autres de caractérisations équivalentes, comme souvent dans les propriétés de graphes. Il y en a une que j'aime bien, c'est qu'un graphe est réductible s'il peut se réduire en un seul nœud, en appliquant de manière répétée les transformations T1 et T2 suivantes. T1, ça ça supprime un arc qui est une boucle triviale, donc un arc qui part d'un nœud et qui revient sur ce nœud, vous l'effacez. Et T2, ça fusionne deux nœuds A et B si B est l'unique successeur de A, ou A l'unique prédécesseur de B. Donc ça devient un nœud unique AB. Et si vous arrivez à appliquer ces transformations et que vous finissez avec un seul nœud, c'est que votre graphe est réductible. Pas évident du tout, hein, l'équivalence entre ces différentes propositions. Et alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse beaucoup aux graphes réductibles? C'est parce qu'ils ont une notion de boucle bien définie, qui se comporte bien, ça s'appelle les boucles naturelles, et ce sont les boucles que les compilateurs savent bien optimiser. Et donc, dans un graphe de flux réductible, chaque boucle, une boucle c'est un ensemble connexe, fortement connexe de nœuds, c'est une boucle naturelle, au sens où elle a un seul point d'entrée T. Donc là, vous voyez, la boucle, c'est l'ensemble AB. Il y a un seul moyen de rentrer dedans, c'est de se brancher sur A. On va appeler ça la tête de la boucle. La tête de la boucle domine tous les nœuds de la boucle, et chaque nœud de la boucle peut revenir à la tête de boucle avec un chemin qui reste dans X. Donc ça, c'est une boucle naturelle, une boucle facile à optimiser. Et à droite, vous avez un exemple de boucle non naturelle. C'est une boucle, en fait, où il y a deux points d'entrée possibles. Suivant la condition testée par A, on va commencer par B, et puis faire C, B, C, B. On va commencer par C, et faire C, B, C, B. Et vous voyez donc que c'est une boucle qui n'a pas de tête, mais c'est aussi un graphe qui n'est pas réductible. Bien. Alors, est-ce que je vais pouvoir revenir? Oui, revenons maintenant aux structures de contrôle, après cette petite interlude de graphe. Donc, il y a un lien très très fort entre réductibilité et contrôle structuré. Dans un sens, toutes les structures de contrôle qu'on a vues jusqu'ici produisent des graphes de flux de contrôle qui sont réductibles. Donc, c'est vrai, des conditionnels à des analyses de cas comme switch, des différentes formes de boucles, que la condition soit au début, à la fin, au milieu, des boucles comptées, bien sûr, des boucles comptées avec sortie anticipée, et toutes les formes de sortie anticipée, return, break, continue, tout ça, ça produit des graphes de flux de contrôle qui sont réductibles et où toutes les boucles sont naturelles, au sens des compilateurs. Et alors, ce qui est très joli, c'est que la réciproque est vraie. C'est-à-dire que tout graphe réductible est le graphe de flux de contrôle d'un programme structuré. Donc un programme qui n'a pas de go-to, mais qui a besoin d'utiliser donc des conditionnels ifs and else, des boucles infinies, et des sorties break et continue à plusieurs niveaux. Donc si vous n'avez que des sorties break et continue à un niveau, comme on sait, c'est pas suffisant. Alors, y a un algorithme qui est assez joli pour construire des algorithmes, pour construire ce programme structuré à partir du graphe. Donc l'article de Peterson, Kasemi et Tokura esquisse un algorithme, bon, c'est plutôt dans une démonstration. Alors l'algorithme est en trois passes, et pas très très bien expliqué, donc je vais pas vous le montrer, mais d'autant plus qu'il y a un algorithme qui a été publié beaucoup plus récemment, à la conférence ICFP en 2002 par Norman Ramsey, qui est vraiment très joli. Donc c'est un algorithme qui est en une passe et qui procède par récursion. Alors pas par récursion sur le graphe, il n'y a pas de principe de récursion sur un graphe, mais par récursion sur l'arbre de domination associé au graphe. Alors là, c'est encore une de ces notions bizarres utilisées dans les compilateurs, mais voyons ça sur un exemple. Donc à gauche, vous avez un graphe de flow de contrôle avec un flow de contrôle un peu compliqué. Vous voyez que le E est partagé d'une certaine manière entre, est accessible à partir de B et de D, et que F est accessible à partir de C et de E. Une forme de contrôle qui n'a pas l'air très bien emboîtée. Et l'arbre de domination, c'est un arbre donc avec les blocs de base comme nœuds, et les branches, donc les fils d'un nœud, ce sont les nœuds qui sont, les fils d'un nœud, ce sont les nœuds qui sont immédiatement dominés par ce nœud. Donc il n'y a pas de dominateur entre les deux. Donc par exemple, A domine immédiatement B, puisque B est un successeur immédiat, A domine immédiatement D, mais A domine immédiatement E aussi, puisque ni B ni D ne dominent E, donc c'est A le premier dominateur, le dominateur le plus proche. Et même chose pour F, qui n'est dominé ni par C, ni par B, ni par E, ni par D, puisqu'il y a toujours un autre chemin qui permet d'éviter un des nœuds, mais il est forcément dominé par A. Et C, en revanche, lui, il est immédiatement dominé par B, puisqu'on passe forcément par B. Bref, donc voilà, donc on a ce genre d'arbre de domination, et l'algorithme de Ramsey, il fait une descente récursive sur cet arbre, et puis il remonte en construisant le programme, avec des morceaux de programme, donc obtenus par la descente récursive. Alors, quelques règles pour produire le programme. Donc, premièrement, si votre nœud, il n'y en a pas ici, mais si votre nœud est une tête de boucle, vous allez produire une boucle infinie, d'accord? Et maintenant, si vous avez des fils dans l'arbre de domination qui sont aussi des successeurs immédiats, ça va se traduire très naturellement par des conditionnels, donc ifs and else. Donc ici, ça va être le cas pour A, B, C et D. Donc on va voir ce que ça donne dans deux minutes. Mais ça laisse le cas un peu problématique de E et de F. D'accord, on ne veut pas les dupliquer, mais il faut quand même qu'ils puissent être accessibles depuis deux endroits de notre arbre de conditionnel. Et pour ça, on va introduire, l'algorithme va introduire des blocs emboîtés qui vont permettre de partager l'exécution de E, qu'on arrive depuis B ou depuis D, et l'exécution de F, qu'on arrive depuis C, depuis E ou depuis D. J'espère que j'ai dû oublier un cas, mais on va voir. Et donc, il va falloir introduire des blocs. Ici, il va en fait falloir en introduire deux. Et l'observation de Ramsey, c'est qu'il y a un critère systématique pour savoir combien de blocs introduire et surtout comment les emboîter, qui s'appuie sur alors une autre notion de graphe qui est le post-ordre, exactement le post-ordre inverse entre les nœuds du graphe. Donc là, je vous renvoie à l'article pour plus de détails. Et puis finalement, il faut faire un petit travail sur les arcs. Donc les arcs triviaux, comme A vers B ou A vers D, ils sont inclus dans les ifs and else qu'on a produits. Et il y a des arcs non triviaux, comme par exemple D vers F, qui vont devenir des breaks ou des continues. Et finalement, donc le code structuré produit pour ce sous-arbre ou ce sous-graphe, ça va être quelque chose comme ça. Il y a deux blocs imbriqués. Le cœur du deuxième bloc, c'est la zone qui est en rouge, c'est un arbre de conditionnel. Si A, si B, faire C, sortir au niveau 2 pour se brancher sur F, sinon, sortir au niveau 1 pour se brancher sur E, sinon, si D, sortir au niveau 1 pour se brancher sur E, sinon, sortir au niveau 2 pour se brancher sur F. Ouf. Et maintenant, à la sortie du bloc interne de la zone rouge, eh bien, il va falloir faire E. Et à la sortie du bloc externe, c'est-à-dire la zone bleue, il va falloir faire F. Voilà. Et donc l'algorithme de Ramsey arrive à construire tout ça en une seule passe, ce qui est assez remarquable. Et je vous renvoie à l'article, il y a du joli code Haskell pour ça. Voilà. Et bien écoutez, on en arrive au fin de à la fin du cours d'aujourd'hui. Donc un petit point d'étape. Donc le chemin qui a mené du GoTo à la programmation structurée de 1945 à 1975 en gros. Donc c'est à la fois les pratiques de programmation et les langages de programmation qui évoluent considérablement. On passe d'une vision machine du contrôle, branchement, étiquette, plus ou moins maîtrisée grâce à des organigrammes de programme, à une vision structurée du contrôle, conditionnel, boucle, etc. et à une vision du code source comme la principale représentation du programme. Alors, on l'a vu sur du contrôle à relativement petite échelle, typiquement sur un corps de procédure ou de fonction. Donc, la semaine prochaine, on va voir du contrôle structuré à la structuration des programmes à un peu plus grande échelle. Donc, tout ce qui est subroutine, procédure et fonction, mais aussi donc des schémas de contrôle un peu plus complexes, comme les générateurs, les itérateurs, les coroutines, les threads, etc. Et donc, je vous rappelle juste quelques références bibliographiques que j'ai trouvées utiles pour préparer ce cours et que je vous recommande de lire si vous voulez aller plus loin. Donc, sur la programmation structurée, et est-ce que ça fait des bons styles et quand est-ce qu'il faut utiliser GoTo ou pas, je vous recommande donc le survey de Knuth. Sur la traduction d'un graphe de flot de contrôle arbitraire en contrôle structuré, donc l'article de Norman Ramsey, est tout à fait clair, c'est une functional Perl, c'est dire. Et alors si vous êtes curieux de ce que c'est qu'Algol 60, donc voilà un article, alors écrit par un journaliste, hein, c'est pas du tout un article académique, c'est publié dans The Register, vous voyez. Mais c'est quand même assez rigolo comme point de vue contemporain, donc 60 ans après, sur Algol 60. Donc le titre, The Greatest... le plus beau des langages de programmation que vous n'avez jamais utilisé. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.